chanter de bon matin quand on partait sur les chemins. À bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette.
Bonjour à tous et à toutes pour votre dernière émission de la saison Il est l'heure, Monseigneur. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée de marque, Vanessa.
Bonjour.
Et puis nous avons aussi nos compères habituels, donc nous avons Marc.
Oui, bonjour, bonjour aux auditeurs.
Nous avons Josiane.
Bonjour à tout le monde.
Et nous avons Jean-Jacques.
Oui, bonjour, bienvenue Vanessa.
Merci. Et nous avons Raphaël.
Bonjour à tous.
Et l'éternel absent.
Et il est absent, Ricardo, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Donc on va enchaîner sur notre année mystère. Pour cette dernière émission, nous ne changeons pas nos traditions. Et donc, nous allons commencer par un premier morceau, un morceau très célèbre de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle « Comme toi ». À tout de suite.
C'était donc Jean-Jacques Goldman avec Comme toi. Alors, cette année mystère, Vanessa, est-ce que ça t'inspire un tout petit peu, au moins une décennie? C'est facile.
Oh, on est dans les années 80.
Bon, on est pas mal. On va la garder. On va préciser les choses tout à l'heure. Donc Vanessa, aujourd'hui, tu viens rejoindre un petit peu l'équipe pour, j'espère, intervenir avec nous l'an prochain. Tu es responsable d'une association qui s'appelle Habitage à Fontaine-Guérin et qui s'adresse aux seniors, notre public. Est-ce que tu veux nous en dire un mot?
Oui, tout à fait. Bah, déjà, merci de m'inviter à cette émission. Donc Habitage, c'est une association qu'on a créée en 2013. Le siège est effectivement à Fontaine-Guérin, donc situé entre Angers et Saumur, pour faire grand. L'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer des lieux de vie, de l'habitat senior solidaire pour des personnes âgées autonomes dans les villages, à partir de la restauration de patrimoine bâti. Donc bénévolement, on a monté notre première maison habitage à Fontaine, qui s'est ouverte il y a maintenant 5 ans. On va fêter les 5 ans. Et depuis, l'association s'est un petit peu développée. On a d'autres projets. Un projet à Combré, où on est en phase de chantier, où l'association a racheté un ancien hôtel-restaurant donc dans le Segréen. On proposera donc 6 logements et des espaces partagés. Et une troisième maison à la Boissière-sur-Èvre, dans les Mauges.
Ah, j'avais pas cette dernière information.
Et voilà.
Bravo. Et donc, c'est vrai que le concept, il est intéressant dans la mesure, j'allais dire du logement inclusif, mais non, c'est juste de l'habitat normal pour un public normal, en l'occurrence les seniors qui sont en solo pour la plupart aujourd'hui.
Oui.
Ils font le choix de venir vers Habitage pour quelle raison principale?
Les personnes aujourd'hui qu'on accueille, c'est vraiment la question de l'isolement et de la solitude. C'est ne pas vieillir tout seul, être en lien et en même temps garder sa liberté. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas une structure, chacun est libre de ses faits et gestes. Ils habitent chacun dans des T2, mais dans un lieu, dans un même bâti, avec aussi des espaces partagés. Et tout est choisi avec eux, voilà. Et donc au quotidien, ils sont libres, vraiment libres.
Indépendants.
Et l'asso est vraiment là pour soutenir justement l'initiative, la participation, etc. Mais d'une manière décidée à chaque fois collectivement.
Alors moi, j'ai visité Fontaine-Guérin avec Vanessa et c'est vrai que c'est vraiment admirable ce qui a été fait parce que le patrimoine est totalement respecté.
C'est exactement ça. C'est chez soi, mais entouré. Et effectivement, l'ADN d'Habitage, c'est vraiment la question aussi de la ruralité, de la restauration et de la valorisation du patrimoine bâti au cœur des bourgs.
Et là où vous avez été fort, c'est que votre solution ne se limite pas à l'habitat. Vous avez mobilisé tout le village.
Oui, alors en fait, on a vraiment une approche d'ancrage territorial, de lien avec les partenaires, les acteurs, les habitants du territoire et du village. Donc on crée aussi d'autres projets. On a fait tout un projet sur la transmission de mémoire sur le territoire, etc. Et puis l'association, en 2018, s'est dit, bon, c'est bien, on propose de l'habitat. Mais en fait, à quel moment les retraités peuvent réfléchir à ce qu'ils ont envie, à ce qui peut exister, à la façon dont ils peuvent envisager de continuer de vivre, dans quel lieu de vie, etc. Donc on a effectivement lancé des ateliers qu'on appelle « Avancer en âge et penser son habitat de demain », qui ne sont pas là pour promouvoir ni l'habitat partagé, ni quoi que ce soit, mais qui sont vraiment là pour mettre en chemin les personnes dans leur propre réflexion, en se disant bien que chaque recette, enfin la recette qui sera choisie sera la meilleure. Donc on est vraiment sur la question du choix, c'est ça qui nous anime vraiment, et comment les personnes peuvent vraiment choisir. Donc ce n'est pas seulement d'avoir une offre diversifiée, ça l'est, c'est un des points sur lequel on essaye de travailler, mais c'est également sur comment on peut aider à la réflexion. Voilà.
Actuellement, il y a combien de logements concernés?
Alors aujourd'hui, sur l'habitat en tant que tel, il y a 4 logements à Fontaine-Guérin. Il y en aura 6 à Combré et 4 à La Boissière-sur-Èvre. Et sur le volet accompagnement des retraités dans leur choix d'habiter, on a accompagné aujourd'hui plus de 400 personnes.
Et c'est des personnes qui habitaient dans les environs ou comment ça se passe?
Ouais. Pour la plupart, ils habitaient sur le territoire, soit à la commune même de Fontaine-Guérin, soit à côté, 5 km. Et puis, une autre personne est venue pour un rapprochement familial. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas envisagées, mais qui nous paraissent d'une évidence aujourd'hui, c'est-à-dire se rapprocher de ses enfants, mais pas d'habiter chez eux, mais
c'est une bonne solution, ça.
Voilà, et donc ça, c'est très intéressant. Et la solution, on le voit bien pour les familles, ça apporte une sécurité sociale, c'est-à-dire qu'ils sont aussi ravis que leurs parents ne vieillissent pas tout seuls, ils savent qu'il y a des gens, qu'il se passe plein de choses, etc.
Est-ce qu'il y a autour de la médicalisation?
Alors, on a la chance d'avoir un cabinet médical avec un certain nombre de médecins à 5 km, donc on n'est pas dans un désert médical, donc ça c'est déjà important. On a des pharmacies, etc. Les pharmacies peuvent apporter aussi les médicaments à domicile. On a encore la chance aussi que certains médecins fassent des visites à domicile. Oui. Mais sinon, on n'est quand même pas très loin. Et puis après, il y a tous les services d'aide à domicile existants sur le territoire. Nous, l'idée, c'était pas du tout d'apporter un nouveau service d'aide à domicile, parce qu'il existe, mais plutôt de travailler avec les acteurs existants pour faciliter la vie quotidienne des personnes. Donc, aujourd'hui, il y a une personne qui bénéficie de services à domicile.
Et comment est née cette démarche ?
L'idée est née d'une histoire personnelle. En 2012, en fait, la grand-mère de mon mari est devenue veuve. Elle habitait Fontaine-Guérin, mais un petit peu isolée, dans une maison peu confortable. Et en fait, elle a intégré un EHPAD. Et là, pour nous, ça a été vraiment le déclencheur, en se disant, mince, il n'y avait que ça. Nous, l'idée, c'est pas de remettre en cause l'EHPAD ou d'être une alternative, mais de diversifier une offre et de se dire, mais comment ça se fait qu'on ne puisse pas rester vieillir au village ? Voilà, c'est vraiment né de cette situation.
Mais alors, vous abordez le sujet de l'EHPAD, mais bon, le sujet de l'EHPAD aussi, c'est les sous. Donc, c'est quoi le coût ? Comment ça
Exactement.
Se passe ?
Ouais. C'était aussi un des piliers de l'assaut, c'était l'accessibilité financière. Comment on fait quand on a 1000 euros de retraite pour vieillir dans du confort, dans une vie sociale épanouissante, d'être en lien, etc. Mmh. Donc nous, on fait uniquement du logement social et on est autour de 400 euros de loyer. Et tous les logements sont conventionnés APL. Donc pour certains, il y a un reste à charge très minime.
Donc en fait, vous vous attendez à ce que ça grossisse ?
Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait plusieurs. Après, nous, on est maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on porte tout, et donc on fait aussi la levée de fonds, la recherche de financement. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas en faire 10 en même temps. On est une petite asso, on est à 4 salariés, il y a 11 administrateurs. On a une vraie vie associative, c'est-à-dire tous nos groupes de travail sont mixtes, administrateurs, salariés. On a des référents administrateurs sur chacune de nos activités. Et du coup, voilà, aujourd'hui, effectivement, on est en train de penser Habitage & Co, c'est-à-dire un dispositif d'appui pour aider d'autres porteurs de projets à faire pareil sur d'autres territoires ruraux.
Et est-ce que tu sais s'il y a des associations qui ont un projet similaire ailleurs.
Est-ce que ça existe ailleurs ?
J'ai envie de dire, ce qui nous dénote, c'est la question de la ruralité, la restauration du patrimoine, l'habitat regroupé et partagé pour seniors. Donc ça, c'est un résultat qui peut exister ailleurs. On peut réhabiliter un ancien presbytère et avoir des personnes dedans. Une autre de nos spécificités, c'est que ça soit porté par une asso, c'est pas toujours le cas. Et une autre des spécificités, c'est qu'il y a une démarche implicative des habitants et des acteurs tout au long de la conception et tout au long de toutes les phases du projet, en fait. Ça, c'est indispensable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, il doit en exister ailleurs. Mais en tout cas, pour les porteurs de projets qui souhaitent être accompagnés dans ce type de projet, ça sera bien, effectivement, de viser ce résultat-là, mais à travers une méthode spécifique.
Il y a des moyens de transport, éventuellement, pour des gens qui n'ont plus de voiture, s'ils veulent se déplacer un peu vers la ville voisine ou autre.
Ça, c'est un vrai sujet, la mobilité en milieu rural. Il y a le transport solidaire qui est mis en place par le centre social sur le territoire, donc qui existe déjà. Nous-mêmes, on a une équipe de bénévoles de proximité aussi qui est liée à Habitage, donc qui peut aussi rendre des services, qui est surtout là pour le lien social, etc., mais qui peut aussi emmener, etc. Nous, on est là aussi en tant que professionnels. Après, il n'y a pas une ligne de bus à Fontaine pour aller à Beaufort.
Non.
Après, il ne faut pas non plus mettre en parallèle forcément l'EHPAD et Habitage, parce que dans l'EHPAD, il y a une part de dépendance qui nécessite un accompagnement médicalisé intense, qui n'est pas l'objet de Habitage non plus. C'est pas un lieu de vie médicalisé.
C'est pas une alternative, c'est autre chose, c'est plutôt en amont.
Exactement, il faut anticiper.
Pas forcément besoin d'aller, on va pas tous finir dépendants, ça c'est aussi un de nos partis pris, c'est aussi de valoriser le fait que il y a un quart des plus de 80 ans qui finiront entre guillemets, qui décéderont dans une grande dépendance. Mais ça veut dire qu'il y en a trois quarts qui ne le seront pas.
Ça doit se traduire par le profil d'âge qui participe à cette démarche.
Alors, il y a l'âge, mais...
Non, mais je veux dire, c'est les gens qui sont ils ont quel âge ?
Pour donner une idée. La plus jeune, elle est arrivée à 67 ans.
Voilà, donc...
Et la plus âgée, elle est arrivée à 89 ans.
Donc 67 ans dans une EHPAD, c'est rare.
Ouais, mais 89 ans, ça aurait pu. Et moi, cette personne m'a dit, mais si je n'ai plus à me faire à manger au quotidien, si je n'ai plus à faire mon ménage, qu'est-ce que je vais faire ?
Bien sûr.
Qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est des personnes qui ont des amis et des proches aussi dans des structures.
Le grand intérêt, moi, j'ai trouvé de Habitage, c'est réellement le rapprochement des commodités, finalement. Puisque d'un domicile isolé, on passe à un domicile où on est entouré, et j'ai envie de dire bien entouré. Donc, il y a tout un réseau d'action qui s'est mis en place et vraiment je pense que ils doivent être comblés vos habitants.
Ouais, on avait fait une évaluation d'impact social en 2019 et donc et puis on est toujours avec, enfin voilà, on est très présent avec eux et eux-mêmes parlent de la famille habitage en fait et même nos administrateurs, enfin en fait on parle comme ça aujourd'hui parce qu'on a l'impression d'être dans une famille, une grande famille, mais c'est ce climat convivial de simplicité aussi, ça on veut le garder, donc même si on transmet, même si on fait d'autres projets, c'est un point de vigilance qu'on a, c'est de rester aussi assez petit pour continuer à faire ce qu'on aime faire et la façon de le faire. Exactement.
Et le regard des instances politiques, au sens large du terme, sur cette expérience, qu'est-ce qu'ils
ont fait ? Plutôt favorable.
La mairie, ils sont partie prenante, ils sont toujours à nos côtés, ils sont là aux âgés, ils sont, enfin, voilà, ils sont très facilitants aussi dans, par exemple, quand on a des recherches de financement, etc. C'est toujours bien qu'il y ait quelques acteurs autour de nous, ils sont toujours présents. Et puis là, on est ravis, c'est que, alors tu parlais d'habitat inclusif, et on est reconnu habitat inclusif. C'est vrai que c'est pas un terme que nous on utilise, mais auprès des institutions on l'utilise, parce que on est vraiment un domicile inclusif, en tout cas qui vise à être en lien entre les personnes, mais aussi avec le territoire. Et c'est un acte aussi de prévention et d'anticipation que de rester en autonomie relationnelle et décisionnelle.
Mais j'ai envie de dire, nulle part ailleurs mieux qu'à Habitage, on peut rester citoyen.
Exactement, c'est le but.
Oui, puis la chance de rester parmi ses amis, au milieu où on est né, que l'on connaît bien, la convivialité, on perd pas tous ses amis parce que vous entrez dans un EHPAD à 40 km, vous voyez plus personne. Ouais. Donc,
Bon, je suis désolé, je vais vous interrompre, mais on a déjà débordé sur la programmation.
Et il n'y a pas eu de blanc. Hein.
Donc, Valentine, qu'est-ce qu'on va écouter comme deuxième chanson pour l'année mystère?
On va écouter une chanson de Julie Pietri qui s'appelle « Et c'est comme si ». À tout de suite.
Donc c'était Julie Pietri avec C'est comme si, une reprise de Kings selon notre expert en musique.
Dans l'ordre, c'était les Kings d'abord, puis ensuite les Pretenders et Julie Pietri, que je ne connaissais pas cette version d'ailleurs. Bon. Parce que c'était elle qui avait chanté Eve, lève toi, c'est ça?
C'est ça. Merci à la programmatrice musicale de l'émission, Valentine. Josiane, sur l'année mystère, est-ce que tu avais quelques événements à nous communiquer? Oui. Qui pourront guider Vanessa?
Le problème, c'est qu'il va falloir que je trie.
Non, il y en a beaucoup.
Ben oui, j'en ai quand même. Alors, comme il y avait des sportifs parmi vous, j'ai quand même choisi des événements sportifs. Il y avait la Coupe de France de football qui était remportée par Paris Saint-Germain. Le Tour de France, c'est Laurent Fignon. Yannick Noah devient vraiment la star du.
Alors là, normalement, là, tennis. Il doit se trouver les gens. Ah, hein.
Bah, il a gagné qu'une fois.
Il voilà. a gagné Roland Garros.
Ah, bah, oui, mais enfin, il était vraiment c'est devenu le prince de Roland Garros. Hein, c'était. voilà. Hein. Ah oui, un petit truc, mais c'était très local. Hein. C'était l'inauguration du musée de l'ardoise. Ça, évidemment, je ne pouvais pas ne pas en parler, n'est-ce pas? Nous avions eu une femme politique, Madame Roudy, qui a établi l'égalité professionnelle des hommes et des femmes qui travaillent en entreprise. Ça veut dire tous les fonctionnaires et tout ça, ils n'étaient pas concernés par ça, quoi. Alors, nous avons eu aussi Monsieur, alors la prononciation Lech Walesa, ou Walesa, qui est prix Nobel de la paix cette année-là. Et c'était aussi la naissance du premier bébé éprouvette.
C'est quoi un bébé éprouvette?
En Belgique. Le bébé éprouvette, quelqu'un veut-il l'expliquer? C'est en fait le bébé, enfin les cellules fécondées et tout, ne se développent pas dans l'utérus d'une femme. Ils sont
in vitro.
Hors d'elle, oui. Voilà.
Du moins au début, quoi.
C'est ça. Bah oui, parce qu'à un moment, il est quand même implanté dans un corps.
Mais la procréation se fait in vitro.
À un moment, l'éprouvette est trop petite.
Oui. Alors, je vais quand même vous parler de certains décès qui sont importants, parce que ça nous ramène à ce qu'on a vu d'eux. Alors, nous avions cette année-là le décès de Louis de Funès. Était quand même quelqu'un
qui ça
d'assez connu.
dans son château du Cellier, enfin, autour de ses roses.
Ouais, c'est possible. Alors, nous avions aussi le pauvre Tintin qui pleurait toutes les larmes de son corps parce que son papa Hergé était décédé également. Hein, voilà. Louison Bobet, si ça rappelle quelque chose à quelqu'un. Et puis, alors, quelqu'un qui a dépassé toutes les générations, dont vous avez sûrement entendu parler quand même, c'était la mort de Tino Rossi et de son petit papa Noël.
Un petit papa Noël, il est mort parce que on l'a écouté depuis, hein. On l'a entendu.
Ah bah oui, c'était quand même quelque chose. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, puis alors c'était une année. Ça, j'ai gardé quand même un souvenir de ça personnel parce que je suis allée le voir. C'était la création par Robert Hossein du spectacle Un homme nommé Jésus. Pareil, c'était un événement vraiment assez sensationnel. Et puis alors, à la télévision, la guerre de deux feuilletons, Dynastie et Dallas.
Que des gentils, là.
Voilà, tout à fait. Hein. Alors, dans l'un, le méchant, c'était un homme, et dans l'autre, c'était une femme. Elle n'était pas bonne non plus. Hein, voilà.
Très, très bien.
Alors, si je ne me suis pas trompée, on avait aussi Ciao Pantin.
Ouais, alors avec Coluche et Richard Anconina,
ça y est, Vanessa, je pense qu'elle a l'année mystère.
Non, mais non, je ne l'ai pas, mais on peut appeler un ami, non? Parce que mon mari est cinéphile et je pense qu'il sait tout. Alors, début des années 80, peut-être plus quand même que la fin.
Oui, donc peut-être qu'avec ce troisième morceau, tu vas pouvoir nous dire peut-être l'année mystère. Donc un groupe très connu qui s'appelle Indochine et qui a fait cette chanson qui s'appelle L'Aventurier. À tout de suite.
Égaré dans la vallée infernale.
c'était l'aventurier de Indochine. Marc, tu avais une chronique cette semaine autour d'un rapport sur le bénévolat. Est-ce que tu veux nous en dire plus, s'il te plaît?
Ah oui, d'autant plus qu'à mes côtés, on vient de parler d'une belle association. Et la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'impact de la pandémie sur l'engagement bénévole associatif? Les bénévoles vont-ils revenir? Ça, c'est la question. Et pour répondre à ces questions d'actualité, cette question d'actualité et réfléchir aux évolutions en cours, France Bénévolat publie tous les 3 ans, depuis 2010, un baromètre du bénévolat. Il est réalisé par l'IFOP, avec l'appui du réseau Recherche et Solidarité et le Crédit Mutuel pour le financement. Il repose sur un échantillon de 3115 personnes de plus de 15 ans. Et IFOP utilise la méthode des quotas pour interroger ces personnes. Les constats de ce cinquième baromètre, puisque c'est depuis 2010, ça fait le cinquième qui sort en 2022, il est tout frais. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est que depuis 2016, le bénévolat tendait à baisser. Mais la pandémie a accentué cette baisse, puisque on a eu moins de 2 millions de bénévoles associatifs, comme on l'évoquait tout à l'heure, moins de 2 millions de bénévoles en 3 ans. On est passé de 13 à 11 millions de bénévoles, 11 millions de personnes. Le taux d'engagement bénévole associatif a donc baissé, c'est-à-dire qu'on est passé de 24% en 2019 à 20% en 2022. C'est le chiffre rapporté du nombre de bénévoles rapporté à la population. Toutes les générations sont concernées, surtout les plus âgés, et plutôt les femmes que les hommes, hein, en termes de diminution. Pour les plus âgés, cela prend une forme plutôt de retrait. Les gens se sont retirés de l'activité bénévole. Pour les plus jeunes, c'est plutôt une réorientation vers un bénévolat direct et informel. C'est ce qui s'est passé. Un secteur a été moins touché, c'est le secteur social, enfin, qu'on nomme social caritatif, dans la typologie des secteurs de bénévolat. À l'inverse, ce sont les secteurs de loisirs et de culture qui ont les reculs les plus importants. Parce qu'il y a mécaniquement une baisse d'activité par l'impossibilité de les mettre en place. À noter quand même que le bénévolat ponctuel continue à progresser. En effet, il regroupe actuellement un tiers des bénévoles associatifs. Le bénévolat ponctuel.
Qu'est-ce que tu appelles le bénévolat ponctuel?
C'est des personnes qui vont donner du temps gratuit sur une période courte. D'accord. Par rapport à l'archétype du retrait de la personne qui arrive à la retraite, qui s'engage dans une association parce qu'il connaît quelqu'un qui est rentré et qui rentre comme on rentre dans un monastère, dans une association. Mais ça existe de moins en moins.
Les vocations.
Voilà, les vocations. Alors, oui, en fait, 10%, la pandémie a provoqué des changements de comportement aussi, même si pour 64% des bénévoles, ça n'a rien changé. Mais, pour le reste, 10% ont décidé de donner du temps dans les missions liées à la pandémie. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté leur association, ils sont allés vers des besoins liés à la pandémie. Ça l'a fait quand même 1 million de personnes au niveau de la France, dont les 2/3 ont continué. Un tiers se sont arrêtés au début de 2022. Alors ainsi, aussi 26% de personnes ont arrêté des activités bénévoles, un quart ont repris et les 3/4 n'ont pas repris pour l'instant. Il y a quand même un motif d'espoir, une grande majorité d'entre eux, de ces personnes qui ont arrêté, ont déclaré reprendre le bénévolat si les mesures liées à la pandémie prennent fin. Donc on voit bien le lien qui fait que les personnes hésitent à repartir parce qu'elles craignent pour leur santé. Alors, dans ce cas, si les choses s'avèrent ainsi, donc dans ce cas, le taux d'engagement n'accuserait qu'une légère baisse, puisque ça repartirait au fur et à mesure que la pandémie, qui va peut-être devenir endémique, c'est-à-dire que un peu comme la grippe, elle sera présente, mais pas aussi forte que ce qu'on a connu. Alors, si les associations, je dirais en conclusion, si les associations ont de quoi être déstabilisées par ces mouvements et ces évolutions, les chiffres montrent que des opportunités sont à saisir. Il y a quand même de l'espoir. De nouveaux engagements apparaissent, on l'a vu. Les arrêts d'activité, pour la plupart, sont considérés comme temporaires. Autant de motifs d'espoir pour les responsables d'associations et leurs bénévoles. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir.
Vanessa, toi qui es responsable d'association, qu'est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que c'est la tendance que tu mesures aussi sur le terrain ?
Je ne suis pas très surprise, effectivement, des chiffres. Après, nous concernant notre asso, les administrateurs ont toujours été très présents, le sont toujours. On n'a jamais eu de problème de recrutement, entre guillemets, ni sur l'équipe de bénévoles de proximité. Ouais. Mais je suis pas surprise que effectivement les plus âgés, il y avait vraiment un climat anxiogène. Enfin, on l'a quand même. Alors, on est passé aussi au visio et tout ça, et c'était quand même. Il fallait pas que ça dure trop longtemps non plus, parce que je pense qu'on aurait pu en perdre là. Ouais. Par contre. Ouais. Et je suis pas étonnée que ça soit aussi les loisirs et la culture, effectivement, qui soient le plus touchés. Enfin, les loisirs, comment les clubs se sont adaptés, enfin, ont arrêté, repris. Enfin, les bénévoles sont usés. Souvent, ils ont aussi une fonction employeur avec des profs, des éducateurs. Et je crois que ça en a usé plus d'un et qu'il y avait plus de l'énergie aussi pour poursuivre.
On a eu des bénévoles qui refusaient les vaccins, qui ceci, cela. Donc,
ça compliquait les choses, évidemment, bien sûr.
On refait une nouvelle pause musicale avec une chanson de l'année mystère qu'on dévoilera juste après, avant d'entendre notre petite pour ou contre de la semaine et puis la chronique musicale de Valentine et Jean-Jacques en duo cette semaine. On se retrouve tout de suite après Rose Lawrence et Africa. À tout de suite. C'était Rose Lawrence avec Africa. Oh là là, on est distrait là.
Ben oui.
Ils font comme si on n'était pas à l'antenne en fait. Alors, Josiane.
Quoi donc?
Tu as dansé dans l'année mystère sur Rose Lawrence ou pas?
Non.
Non? Bon. Tu veux nous dévoiler l'année mystère en question?
Ah, je sais pas.
Tu sais pas? Bon. Vanessa, oui. L'as-tu?
Je dirais entre 80 et 85.
Bien. Mmh.
Très bien.
La première, voilà.
Pile poil.
La dizaine, après, je bon, sais.
Ben, c'était 83.
Ah, d'accord.
J'ai bien joué. Parfait. Bon. J'ai oublié Jean-Jacques et sa chronique, l'UFC que choisir, on va la faire immédiatement. Oui, je t'ai oublié, Jean-Jacques.
C'est grave.
Donc, ah non, mais il a que Dieu.
Voilà. C'est... Les petites ne disons pas tout à l'antenne, Josiane. Allez, à toi, Jean-Jacques.
La téléphonie. Gare aux applications pirates. Le piratage des téléphones mobiles est très répandu. Et souvent, sans que l'utilisateur le sache, ces intrusions facilitent la fraude bancaire. Elles peuvent aller plus loin encore avec la captation de données personnelles revendues à des opérateurs sans scrupules. Le smartphone est devenu tellement précieux qu'il représente un danger, à défaut d'un minimum de précautions. Les signes d'infection sont par exemple le surgissement de publicités dans toutes les transactions, le plantage fréquent, sans raison, ou la surconsommation d'énergie et de données. Ce phénomène résulte évidemment du développement des usages numériques. Les messages, les localisations, les paiements, les contacts et les échanges de toutes sortes sont des mines pour la revente ou l'utilisation malveillante des données personnelles. Les passerelles de piratage sont toujours les exécutables ou les liens actifs joints à un message. Mais ce sont aussi désormais des applications corrompues par des cybercriminels et disponibles dans le magasin Google, Play Store, et plus rarement d'Apple. Même des applications antivirus se sont révélées infectées par Sharkbot, un trojan très puissant et discret capable de provoquer des virements bancaires. Un autre programme pirate nommé Joker s'était introduit dans des dizaines de logiciels disponibles sur Play Store. Beaucoup de ces logiciels frauduleux transitent aussi par les réseaux sociaux comme Facebook et WhatsApp. Google impose pourtant aux fournisseurs agréés sur Play Store des contraintes et des vérifications strictes. Le site annonce avoir rejeté plus de 900 000 logiciels non conformes et interdit plus de 100 000 développeurs suspects en 2020. À l'évidence, ces protocoles sont encore insuffisants, ou bien le concurrent Apple est plus efficace. Au moins, les risques restent limités sur les deux magasins officiels de Google et Apple. Statistiquement, beaucoup plus sûr. Le pire est évidemment de télécharger des applications à partir d'autres plateformes.
Moi, je vois qu'une solution, il faut revenir au téléphone en bakélite. Hein. Hein? On sera pas mal.
On peut prendre celui qui est mural aussi.
Bon, merci Jean-Jacques. On va enchaîner avec le petit pour ou contre de la semaine. Alors, j'avais pas préparé les chroniqueurs à ça. On va les cueillir à froid.
Ça, c'est vache. Ça, alors, c'est vache.
Le pour ou contre de la semaine, c'est pour ou contre l'examen médical obligatoire pour la conduite automobile. Je voulais juste vous mettre en lumière deux chiffres sur la mortalité automobile en 2019. Alors, je reprends mon tableau. Hop. En 2019, on a eu 549 décès sur des tranches d'âge de 18 à 24 ans. Et sur la même année, on a eu 532 décès de personnes de plus de 75 ans. Alors, la question est évidemment un peu réduite, mais que pensez-vous, les uns et les autres, d'un examen médical qui serait obligatoire pour pouvoir continuer de conduire à partir d'un certain âge? Josiane.
Oui, je souris parce que ça me rappelle un certain débat avec notre président, n'est-ce pas? Voilà, il n'avait pas complètement tort, mais pas complètement raison non plus. Mais c'est vrai que souvent, moi, dans les conversations que j'ai, on reconnaît le bien fondé de ça, mais des personnes de 75 ans, oui, mais c'est pas pour moi, parce que moi, je suis bien, moi, je suis ceci, je suis cela. Donc, c'est assez difficile. Quant aux malades que l'on connaît, le fait d'être susceptible d'avoir le permis de conduire retiré, c'est vraiment un traumatisme affreux. Les médecins n'osent même pas le dire à leurs patients. Hein. Il y a des choses...
C'est une forme de privation de liberté de ne plus pouvoir conduire, mais en l'occurrence, c'est aussi une mesure de protection de leur dire, ben là, vous mettez en danger et vous mettez les autres en danger.
Mais
non,
ils sont persuadés que c'est pas eux le danger, hein, c'est les autres.
Il y en a qui ont conscience de ça.
Moi, j'ai une expérience. Moi, j'ai une expérience vécue. C'est arrivé donc à mon épouse qui conduisait notre fils à la gare à 100 mètres de chez nous. Il y a un stop. Et elle s'est fait rentrer dedans, comme on dit trivialement, par une dame d'un certain âge. Et qu'est-ce qui est arrivé une fois l'annonce faite, son fils qui était un motard, il est arrivé en moto, je me souviens, et il était fou furieux. C'était le troisième accident consécutif que sa maman occasionnait.
Quoi.
Et je peux vous dire, il a dit c'est fini.
Bah oui.
Et voilà, et dit mais j'avais pas, je voulais en parler, etc. Mais il n'y avait pas moyen de la décider.
Non,
et là, ça aurait pu être très grave.
Puis t'entends des personnes qui disent oh ben je prends ma voiture que pour faire 5 ou 6 kilomètres pour aller à côté, donc je suis pas un danger. C'est pas rare.
Bah, d'ailleurs, la plupart des accidents sont toujours quand on est le plus proche de chez soi, parce qu'on est rassuré, on se dit je connais la route, et c'est souvent dans ces endroits-là où il y a le plus d'accidents.
Mais je crois que ça. Voilà, évidemment, il y a le. Alors après, la manière dont c'est fait, cet examen médical avec c'est des critères, parce que c'est vrai que ça peut être plus ou moins discriminant. Maintenant, je crois que si c'est bien pensé, bien réfléchi, peut-être que ça pourrait effectivement être un moyen de prévention indirecte pour. Même si, dans certains cas, c'est sûr que ça peut être compliqué pour la personne.
Alors, c'est marrant parce qu'on ne pense pas tous de la même manière. Et moi, je suis surpris de voir qu'un routier, par exemple, il a un examen médical obligatoire et un automobiliste, pas. Donc, le routier, oui, certes, le risque est majoré du fait de la masse du camion. Mais
le transport en commun et tout voilà, ça, ils ont des examens à passer.
Et j'ai envie de dire, avant de qu'on se dise qu'on a une mauvaise vue, on ne s'en rend pas forcément bien compte. Enfin, moi, j'ai eu des lunettes à 14 ans. Ça a été pour moi une révolution. Je ne savais pas que je voyais mal.
Et moi personnellement, tu parlais des examens poids lourds. Moi, il se trouve que l'histoire fait que j'avais le poids lourd, le transport en commun, etc. Et je passais. Bon, j'ai arrêté maintenant parce que bon, j'en ai plus là. J'avais fait du transport scolaire quand j'étais étudiant. Donc voilà, c'est à cause de ça que j'avais obtenu mes permis. Mais c'est vrai que le médecin vérifie un certain nombre de choses, notamment la santé de base et puis aussi la vision, les réflexes. Voilà, donc. C'est quand même pertinent. Hein, comme
moi, j'avais un problème de vue quand j'ai passé mon permis. J'ai eu mon permis, mais tous les 5 ans, je repassais pour voir si ma vision ne posait pas de problème particulier. Ouais, puis c'est au bout de la 3e fois qu'ils ont décidé de me le donner définitivement.
Bon. Voilà.
Mais c'est vrai que c'était très suivi.
Oui, aujourd'hui, en fait, on demande plus, parce que je sais qu'il y a aussi tout ça. Je sais que normalement, il faut avoir au moins 5 sur 10 à la vue pour pouvoir conduire, et en dessous, normalement, on n'a pas le droit de conduire. Mais après, c'est surtout de la demande, en fait. C'est un peu approximatif, dans le sens où si on dit qu'on l'a, on ne va pas quand même pour autant faire des examens. Mais normalement, si on suit la logique, on devrait faire des examens pour prouver qu'on a bien cette vision.
En clair, il faut laisser nos députés de l'Assemblée nationale qui sont tout nouvellement élus statuer sur le sujet et savoir si effectivement il faut légiférer pour instaurer
Alors peut-être qu'on pourrait obtenir quand même des docteurs et des spécialistes qu'ils abordent ça en disant écoutez, vous conduisez, il y a peut-être, ils pourraient amener un petit peu ça. Moi j'ai eu des choses qui se sont réglées parce que dans leur famille, ils connaissaient un gendarme. Et le gendarme était très écouté de son mari quand il lui a dit oh ben non, maintenant il faut pas et tout. Bon, c'est passé mieux. Par contre, j'ai eu un truc violent. Une personne de 85 ans, qu'on l'appelle Madame Fongio, d'accord, en plus, ses enfants ont décidé de lui vendre sa voiture sans lui en parler.
Ah oui.
C'est violent, hein.
Bon.
Je pense qu'il faut faire attention à la stigmatisation. Enfin, on est toujours là-dedans. Ah ouais. Si à 75 ans, on se dit voilà, alors maintenant j'ai l'examen médical. En gros, je peux plus faire comme tout le monde. Enfin, je trouve que c'est le risque de. On en parle beaucoup, hein, de l'agisme. Bah oui, et je pense qu'on est encore surtout, là-dedans. Donc de l'encourager, d'être dans des démarches plutôt de sensibilisation et peut-être à tous les âges au final.
Oui, puis ceux qui sont dans des zones rurales et tout, parce que c'est vrai qu'à Angers, tu peux pas conduire, t'as le tram, t'as des solutions alternatives. Mais dans un petit village, il peut même pas aller faire ses courses au supermarché qui est à 3 km.
Mais c'est là que l'entourage familial, c'est là que l'entourage familial peut être vachement important, quoi. Ouais. Pour le conseil, pour le.
Ouais, et il me semble aussi important de ne serait-ce que de se poser la question, est-ce que c'est prudent que je conduise ou pas. Aujourd'hui, on se pose la question avec l'alcool. Il y a 30 ans, on se posait la question aussi, mais pas au même seuil. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi savoir faire son autocritique. Est-ce que je peux conduire? Est-ce que je peux pas conduire? Et voilà. Moi, je connais des personnes qui décident de ne pas conduire la nuit, par exemple.
Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes, je veux dire, qu'avec l'alcool, à partir d'un moment, tu n'as plus la conscience. À partir d'un certain âge, tu n'as plus les sens.
On va enchaîner par une petite battle entre Jean-Jacques et Valentine. On va commencer par Jean-Jacques qui nous a préparé aujourd'hui une petite chronique musicale, non pas sur l'album de l'année mystère, mais sur des plagiats. Voilà. Donc Jean-Jacques, quel est ton premier plagiat que tu veux dénoncer?
Alors, cette intro, on la connaît. La chanson aussi. Bernard Lavilliers et Nicoletta, Idée Noire. 1983. Et celle aussi de 1987, Claude Nougaro, Nouga York. Alors, le troisième, le 1C.
Tu me fais mal, Jean-Jacques, parce que j'adore les deux, moi.
Ah, mais j'aime bien, moi. Ça, c'était Anne Clark Wallis, hein, en 2012.
Alors, moi, je vais partir d'une chanson qui est très connue des années 90, qui est Whatever de Oasis. Donc on la connaît soit par rapport à une pub de banque, soit on la connaît juste parce qu'elle était connue à l'époque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, il y a une autre chanson qui est quand même très similaire, qui est de Neil Innes, qui est How Sweet to be an Idiot, qui est sortie en 1973. How sweet to be an idiot. Almost poking fun at the warm but insecure, untidy crowd.
Bravo! Alors là, bon, là, je vais survoler vite fait rapidement celui qui a fait peut-être parler le plus, hein. L'un des plagiats les plus connus, qui a engendré de longues procédures juridiques avec beaucoup d'argent à la clé. George Harrison, My Sweet Lord, 1970. My Sweet Lord. Et alors, bah, Celle-ci, la date 10 ans avant. The Chiffons. Je peux faire un commentaire supplémentaire. Où le vilain, hein, il a copié The Chiffons. Mais il faut dire que parfois, il faut vraiment le croire, la création a parfois de drôles de commentaires. Paul McCartney, un autre Beatle, se réveille un matin, ayant dans la tête toutes les paroles et la musique de sa chanson Yesterday. Étonné, il est persuadé que cette chanson existe déjà, composée par un autre. Et il attendra quelque temps avant de l'enregistrer, par précaution. Étonnant, non? Oh, encore un mois, mais c'est formidable.
Je peux le faire, hein, ça me met en motion.
Non, mais attends. Alors, là, j'en ai une. Je vais refaire une triplette. D'accord? On va passer ça, la version la plus connue, hein, c'est Feelings, une chanson de Maurice Albert. C'était un Portugais ou un Brésilien.
Oh, hein.
6A.
Feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love.
La version 6B, donc Mike Brandt, dis-lui.
Fais ça pour moi, dis-lui. Quel jour sans elle me semble moi lent.
C'est là où est le bouquet. En 1953, Loulou Gasté, le mari de Lynn Renault, compose une chanson pour le film Le Fou aux Poudres en 53, et c'est une chanson chantée dans un cabaret, j'ai vu la séquence, hein, chantée par Dario Moreno.
Ah.
Et ça s'appelle comment?
Pour toi.
Pour toi, j'ai quitté ce que j'aimais, j'ai perdu ce qui m'aimait. Je n'ai que toi. Sans.
Alors, il y aura un procès gagné par Loulou Gasté. Ça a duré des années. Hein. Mais Maurice Albert, donc le créateur théorique, hein, en 70, hein, ne paiera jamais. Il disparaîtra de la circulation. Aux dernières nouvelles, il se planquerait en Italie.
Alors, moi, j'en ai un, c'est pas un plagiat sur une chanson entière, mais c'est sur un passage.
Oh, c'est souvent des passages d'ailleurs.
C'est souvent, oui, surtout des passages. Et je vais vous passer les deux à la suite et je vais vous dire pourquoi elles sont si similaires. Alors, ça va être Céline Dion avec Les Derniers Seront Les Premiers de 1995 et Aïcha de Khaled de l'année d'après.
Les derniers seront les premiers dans notre réalité. Nous serons d'éternité.
Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi.
Donc on entend bien au niveau des intonations que c'est totalement les mêmes. Et il y a une raison très simple, c'est que c'est le même compositeur. Jean-Jacques Goldman ne devait pas être très inspiré ces années-là.
C'est pas un problème d'inspiration, c'est un problème de retour sur investissement. Hein. Bon, merci Jean-Jacques, merci Valentine. Oui, alors la petite dernière pour te faire plaisir, mais je sais pas si je vais pas la couper celle-là.
Elle est super celle-là, c'est pour ça. Au pire, tu couperas une autre, tu m'en couperas une autre, au pire, mais pas celle-là, s'il te plaît. Alors là, je voudrais vous parler d'une bande originale d'un film qui s'appelle Le Parrain. Par un film très connu.
Le Parrain.
Qui est un film très connu qui a remporté 2 Oscars. Cependant, il n'a pas eu l'Oscar de la musique. Alors que pourtant, cette musique aujourd'hui est très connue. En effet, lors des Oscars, elle a été disqualifiée parce qu'on a dit qu'elle était trop ressemblante à une autre musique d'un autre film sorti quelques années auparavant qui s'appelle Fortunella. Et pour cause, comme pour Jean-Jacques Goldman, c'était tout simplement le même compositeur. Mais ça lui a valu le fait que ce soit disqualifié de la compétition, et c'est pour ça qu'il n'a pas remporté son Oscar.
Alors le compositeur, c'était qui? C'était Nino Rota?
Oui, c'était Nino Rota.
C'était le même, d'accord. Oui. C'est marrant parce que il y a un plagiat que je connais bien. Enfin, je vous en ai déjà peut-être parlé. Hein. C'était Stranger in the Night de Sinatra. Oui. Et en fait, il y avait une chanson. C'était un tango. Et c'était un plagiat.
Oui, bien sûr.
Bon, avec tout ça, on va pas avoir le temps de passer la dernière chanson de la saison, donc qui aurait dû être nous. Hein.
Non, mais on a bien rigolé.
Ouais. Dans tous les cas, je voulais vraiment tous vous remercier. C'est la dernière mission de la saison. J'espère qu'on se retrouve tous à la rentrée et on va souhaiter un bel été à tous nos auditeurs. En attendant, merci Valentine.
Fait de la peine, mais il faut que je m'en aille.
Alors, Valentine sera au Canada l'an prochain, mais j'espère bien qu'on trouvera le moyen d'intervenir ensemble. À distance, c'est par la magie de la technologie. Merci Valentine.
Eh ben, merci à toi, merci à tous, merci de nous avoir accueillis pour cette saison et puis j'espère qu'on pourra continuer l'an prochain malgré le fait que je suis au Canada et puis je souhaite à tous nos auditeurs un très bel été.
Merci Vanessa, on se retrouve très vite également sur les antennes.
Merci, avec plaisir.
Merci Marc.
Merci Raphaël et bon été aux auditeurs.
Merci Josiane.
Bonnes vacances.
Et merci Jean-Jacques.
Bon été à vous.
Et puis on souhaite un bel été à Ricardo ou pas?
Oh, oui.
Allez, bon été à tous. À bientôt.
Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes, à bicyclette.
Radio G 101.5 FM.